entretien. Donc, sans plus attendre, hein, puisque je pense que là, nous avons... je vais de toute façon commencer à présenter les auteurs par ordre alphabétique et par ordre de placement également, ce qui donnera une dernière occasion à Gilbert Sivoué d'apparaître s'il a été retenu. Alors, donc, je commence par Mireille Calmel, qui est depuis maintenant, voilà, ça y est, 10 ans, une figure de plus en plus importante du roman historique en France, puisqu'il y a 10 ans paraissait Le lit d'Aliénor chez XO Éditions, qui a ensuite été suivi par Le chant des sorcières, Le bal des louves, Les dix pirates. Et les derniers volumes en date sont des prolongements des aventures d'Aliénor et d'Algonde. Il y en a eu un également. Donc ce sont des destins de femmes sur fond historique avec une pointe de surnaturel et une pointe d'érotisme. Et voilà, un mélange qui fait des livres qui se dévorent. Jean-Philippe Depote, qui mêle également l'histoire et le fantastique, pas de la même façon, hein, on a des auteurs très différents de romans historiques autour de nous aujourd'hui, a fait paraître 3 romans chez De Noël, la collection grand public, pas chez Lune d'encre comme on pouvait éventuellement s'y attendre, donc plus côté roman historique. Il y a eu Les démons de Paris, qui se déroulait dans un Paris du début du siècle, autour du prêtre Joseph qui entend les voix des morts. Puis Les jours étranges de Nostradamus, donc sur fond de guerre de religion, d'Europe du XVIe siècle, et de conflits entre sciences expérimentales, médecine et occultisme, avec un personnage de médecin, disciple d'Ambroise Paré et proche de Nostradamus. Et puis vient de paraître donc Le crâne parfait de Lucien Bell, qui cette fois explore encore une autre période historique très intéressante et relativement mal explorée jusqu'ici par le roman, la Commune de Paris, donc après la guerre de 1870, donc autour d'un personnage dont le prologue nous montre le peloton d'exécution, hein, donc qui commence par se faire abattre sous nos yeux, mais son aventure est loin d'être terminée. Et enfin, Anne-Sophie Sylvestre, est l'auteur d'une œuvre importante qui est plutôt parue dans des collections pour la jeunesse, même si elle écrit pour tout public, autour de différentes périodes historiques. Il y a une série autour du personnage d'Atalante, donc qui réécrit des mythes de l'Antiquité gréco-romaine. Il y a une série autour de Marie-Antoinette et puis de la princesse Palatine, donc autour de Versailles. Plusieurs romans, dont ces derniers, Eulalie de Potimarron, qui revient à Versailles. Et il y a aussi quelques tomes autour de l'Empire et de la Restauration, plus, hein, donc voilà, une œuvre très diversifiée, des contes. Oui, les Chevaliers d'Eon, tout à fait. Mais est-ce qu'ils sont là, les Chevaliers d'Eon?
Vous n'avez pas apporté.
Non, c'est ça. C'est pas moi qui apporte. Donc, une série autour du Chevalier d'Eon. Et je pensais en fait aux Tom Morgan, qui eux sont plus sur fond
un essai de fantasy.
Ouais, celtique elfique. Et La sorcière de Venise, où ce sont des contes de sorcières à partir d'un folklore local. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait réunir ces différents auteurs à part l'étiquette roman historique qui est celle de la table ronde. Et il m'a semblé que le point commun, c'était la présence du surnaturel. Alors, dans des dosages très différents, et d'ailleurs pas systématiquement dans toutes les œuvres des trois auteurs, mais tout de même, ça met en exergue une des grandes questions du roman historique, qui est le rapport entre documentation et imagination. Alors, est-ce que, pour vous, hein, ma question, c'est que, est-ce que donc, l'intervention du fantastique est pour vous une façon de faire une place bien nette, qui est la place de l'imaginaire ? Et donc voilà, ce sera ça, ce sera le surnaturel, et à côté c'est que de l'histoire, ou est-ce que, au contraire, la partie historique aussi est recréée et réinventée, et les deux sont inséparables pour vous ? Je vais commencer par...
Moi je dirais que le surnaturel, il fait partie de l'histoire, il fait partie de notre quotidien, il fait partie de la vie, donc tout simplement parce que plus on remonte dans le temps, et moins les choses sont explicables. Donc à partir de là, il devient légitime. Alors ce qu'on explique aujourd'hui avec une facilité déconcertante, c'était un mystère total pour les gens de l'époque du Moyen-Âge, celle avec laquelle je suis le plus souvent. Et on est, j'allais dire, à l'origine des légendes du Moyen-Âge. Et tout prend une autre dimension. Une sorcière utilisait en grande partie l'hypnose, mais on ne savait pas que c'était de l'hypnose. Quand je parle dans mes livres de la légende du roi Arthur et que je donne à mon héroïne une descendance liée à Avalon et liée aux druides, elle est légitime dans le sens où c'est grâce à Aliénor que la légende du roi Arthur nous est parvenue telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que des chroniqueurs attestent qu'Henri Plantagenet a déterré Excalibur, parce qu'elle a induit les cours d'amour et qu'à travers les cours d'amour et à travers les premiers romanciers hein, de cette époque, elle a demandé à ce que l'histoire du roi Arthur soit écrite telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà, et dans le Val des Loups par exemple, puisqu'on citait tout à l'heure le Val des Loups, comme j'ai fait intervenir une femme loup, d'abord je suis tombée sur cette légende, une femme loup, qui avait été, au départ on m'a dit voilà c'est la fille de Médélier qui a été violée par le Seigneur, elle s'est réfugiée dans une grotte, et en fait il y avait des loups, mais en fait c'était une femme loup, et jusqu'au moment où j'ai appris que Paracelse, fameux médecin allemand, était venu au château de Boulogne pour rencontrer cette jeune femme qui ensuite elle est devenue la première légère de France, et que c'est après avoir rencontré cette femme qu'il a écrit son premier traité de lycanthropie. Donc la lycanthropie, comme on le sait, c'est la science du loup-garou. Et ce traité a servi de base à l'étude de la lycanthropie pendant 3 siècles, la faculté de médecine. Donc si vous voulez, pour moi, il n'y a pas... Le surnaturel, il fait partie du quotidien. Donc je n'ai pas l'impression de rajouter de la magie. J'ai juste l'impression d'évoluer dans la magie. Et j'ai un peu...
Oh là 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 là. Ça, c'est les grognards de l'Empire.
Ah, bon, tout va bien.
Bien, après les mousquetaires, voilà, on est aussi en baigne dans un mélange des époques.
C'est bien, on mange le temps. Et donc pour finir, je vis moi avec ces phénomènes surnaturels depuis que je suis toute petite. Je vous donne un des exemples. Alors je suis quelqu'un d'extrêmement, ce qui est paradoxal, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Donc j'ai beaucoup d'amis physiciens, astrophysiciens et autres avec lesquels je discute souvent pour essayer de trouver des réponses à ce que je n'explique pas moi depuis que je suis gamine. Aux images qui viennent et tout ça, et qui me guident dans mes recherches, qui me permettent d'aller beaucoup plus vite que je n'irais en temps normal, puisque globalement, c'est 3 ans à peu près de travail, de recherche par saga, et j'ai fait appel à une équipe d'historiens et autres, parce que je ne suis qu'une raconteuse d'histoire. Et moi, je vis avec ces phénomènes-là. Le personnage de Anna Grimoire, dont je vous parle justement, et qui est quasiment avec Aliénor, l'héroïne de cette histoire, du lit d'Aliénor et Aliénor. J'ai rêvé son nom, j'étais toute petite et elle m'a accompagnée pendant des années et des années jusqu'au moment où je suis tombée en arrêt devant le château des Rudel, château du Bois d'Eau, Geoffrey Rudel à Blaye, ville dans laquelle je me suis installée, où pendant une fraction de seconde le château m'est apparu tel qu'il était au XIIe siècle et où là j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe. Et bon, on va faire court, hein, mais du coup, si vous voulez, j'ai commencé à le dire non, il n'est pas mort dans les bras d'une princesse lointaine, il avait une vraie femme et cette femme c'était elle, c'était Loana de Grimoire. Et Régine Pernaud, qui m'a à cette époque-là ouvert les archives nationales, m'a permis de tomber sur un manuscrit signé Loana de Grimoire qui faisait état de Geoffrey Rudel à Blaye. Donc voilà, pour vous dire que tout ça, quelque part, moi je baigne dedans. Donc je n'ai pas l'impression de faire de dissocier les choses. Tout appartient au même monde, le nôtre, simplement. Il a plus ou moins une perception différente suivant les siècles et suivant la connaissance que l'on acquiert au fur et à mesure de l'avancée technologique. C'est tout. peut-être que
oui, c'est vrai que le Moyen-Âge s'y prête particulièrement bien. Alors, Jean-Philippe Depote, c'est pas votre... Vous n'avez pas commencé, en tout cas, par le Moyen-Âge, qui est l'époque, effectivement, dans laquelle le merveilleux intervient presque le plus naturellement et le plus facilement. Au contraire, vous êtes allé vers des époques peut-être moins évidemment.
Oui, mais enfin, la belle époque des démons de Paris, c'est une époque où l'occultisme, oui, c'est l'âge d'or de l'occultisme, c'est une période où l'occultisme se marie énormément avec un progressisme, où les gens croyaient énormément dans les succès de la science et le fait que la science résoudrait tous les problèmes. Et dans le même temps, ils invoquaient l'esprit des morts et ils allaient à des séances de médiums. Donc si, il y a énormément de périodes qui se prêtent à ça.
Victor Hugo était un adepte, d'ailleurs.
On en trouve énormément, des auteurs classiques. Et en fait, moi, de mon côté, j'ai toujours été passionné d'histoire, mais ce n'est pas du tout ma formation d'origine. Et en fait, j'ai commencé à écrire... justement par un grand écart où d'un côté l'histoire m'intéressait personnellement et sans vouloir l'utiliser à quoi que ce soit, et d'un autre côté, en tant que lecteur, moi j'adorais la science-fiction, le fantastique, et en particulier des thématiques comme celle de Philip Dick, où on mélange ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, où on brouille les pistes, on sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est réel, ce qui n'est pas vrai, et là, j'ai commencé à écrire quand je me suis dit qu'on pouvait marier les deux et qu'effectivement, à certaines époques, par exemple pour les jours étranges de Nostradamus, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, la réalité de l'époque n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Et par exemple, quand on se pose la question de notre 21e siècle, est-ce que les prophéties de Nostradamus sont vraies ou pas vraies ? À l'époque, la question ne se posait pas du tout. C'est évident que c'était vrai, pour tout le monde. Et ce qui m'a intéressé, c'était de me mettre dans la tête d'un médecin de l'époque qui, lui, voyait le progrès de la médecine et commençait à essayer de disséquer les corps pour comprendre comment ça fonctionnait et lutter contre l'obscurantisme de Galien, d'Hippocrate et de la médecine de l'époque. Et par ailleurs, il se retrouve plongé dans un... Enfin, comment une personne comme ça peut raisonner alors que dans son propre esprit se mélange à la fois une vision très scientifique et... pas des croyances, mais une réalité de l'époque qui est pas la réalité.
La chasse aux sorcières. Voilà.
Et en fait, en tirant le fil, j'en suis arrivé à Lucien Bell et à la Commune de Paris, où là, en fait, le problème est très différent, mais dans le fond, on retrouve quasiment du fil d'Ic et des questionnements sur la réalité. C'est que les gens qui vivaient la Commune de Paris en direct, et qui étaient... boulanger ou boucher en plein milieu de la Commune de Paris, vivait une réalité qui ne correspondait pas au romantisme politique qui mangeait tout. Voilà. Moi, c'est ce qui me fascine avec la Commune de Paris, c'est que même encore aujourd'hui, personne ne voit la Commune de Paris comme elle a été vraiment, et personne, on a un mal fou à imaginer ce que ça pouvait ressembler, vu caméra à l'épaule, vu de quelqu'un de l'époque. Et parce que, voilà, dès qu'on commence à écrire quelque chose sur la Commune de Paris, ça devient un pamphlet politique, ça devient le Grand Soir, ça devient la Grande Révolution. Alors que ce n'est pas du tout ça à l'époque. Et en particulier, moi, il y a un élément, et c'est ça qui m'a décidé à écrire ce bouquin, c'est que, par exemple, il y a eu des élections partielles qui ont eu lieu deux semaines avant la fin de la Commune de Paris. Donc c'est deux semaines avant que 30 000 personnes se fassent massacrer dans les rues de Paris par les Versaillais. Et bien, deux semaines avant... On a voté parce qu'il y avait quelques sièges libres à l'Assemblée de la Commune et il y a eu 80% d'abstention. C'est-à-dire que 80% des Parisiens ne sont même pas déplacés pour aller voter. Ce n'était pas leur problème. Eux, leur problème, c'était de vendre leur pain. Et voilà. Et je me suis dit qu'il y a un tel décalage entre la réalité historique, entre guillemets, et la réalité que c'est du physique, en fait. On se demande ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai quand on y vit à l'époque. Quand on devait y vivre à l'époque. Enfin, ils ne se posaient pas cette question à eux, mais on s'en pose nous avec leur...
Oui, donc là, c'est encore une autre question, c'est la manière dont on peut réinventer l'histoire dans l'imaginaire collectif et ne pas l'appréhender telle que les documents peuvent nous l'apporter.
Oui, en fait, c'est un problème assez... c'est pas un problème nouveau, mais énormément de gens sont penchés sur cette question-là dès qu'on s'intéresse à l'histoire et au traitement de l'histoire. Bon, et puis après, il se trouve que, n'étant pas historien, moi j'aime bien utiliser l'histoire vraiment comme un bac à sable, quoi, pour y ajouter mes histoires. Et c'est sûr aussi que toutes mes histoires sont teintées de, entre guillemets, de vrais fantastiques, et les histoires sont toujours à la marge de dérive.
Oui,
c'est un autre problème.
Le plus nettement fantastiqueur du lot. Et Anne-Sophie, alors comment envisagez-vous cette présence, ce mélange de l'imaginaire et de l'histoire?
Eh bien, je dirais que déjà, le monde du passé, pour moi, c'est un monde imaginaire. C'est un monde imaginaire qui a existé, donc qui a laissé des traces, qui a laissé des marques, des documents, des écrits, des témoignages, qui le cadrent et le structurent, alors, dans lesquels qu'il faut essayer de respecter, du moins en esprit, dans un roman historique, mais... C'est juste une sorte de décor, comme disait Jean-Philippe, un bac à sable pour y jouer, mais en essayant de le respecter le plus possible. Et dedans, faire intervenir, moi, mes personnages, pour la plupart, sont des personnages de fiction, donc pour lesquels j'ai une liberté totale. J'ai une liberté totale de les faire agir dans ce cadre historique, en essayant de le respecter à peu près.
Est-ce que vous travaillez de la même façon sur la mythologie ou sur le XVIIe siècle ?
La mythologie, c'était autre chose. Non, bien sûr, la mythologie, c'était une saga que j'ai écrite comme ça, qui est plein de personnages fantastiques, qui est plein de... Il y a des dieux et des déesses. J'ai essayé qu'il n'y ait pas trop d'intervention, justement, d'une magie inexplicable, toute puissante, qui règle les problèmes. C'est les humains sont en grande partie se débrouillent tout seuls. Mais en fait, bon, la mythologie, c'est quand même une toute petite partie de ce que j'ai fait. Dans tout ce qui se passe au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ou XIXe, en effet, il y a une présence du merveilleux, du surnaturel. Mais comme disait Mireille, en fait, qui fait partie de la vie de tous les jours et qui à l'époque paraissait d'autant plus magique et merveilleux qu'on ne l'expliquait pas. Comme dit Balzac, les forces intangibles, impalpables et impondérables, et que maintenant on sait très bien expliquer, mais justement, le fait de naviguer dans un. Enfin, de raconter des histoires dans le passé. Maintenant que nous savons expliquer ces phénomènes, enfin pour la plupart, parce qu'il y en a aussi que nous ne savons pas, c'est très amusant en quelque sorte, c'est un plaisir d'auteur. Mais je n'en rajoute pas pour le... Enfin, j'aime beaucoup le merveilleux, j'aime beaucoup le fantastique, j'en mets si ça rentre bien dans l'histoire, hein. Et je ne me pose pas vraiment de questions dessus.
Donnez-nous un exemple, de comment le fantastique a pu entrer dans votre histoire, comme ça pour vous parler d'un de vos livres.
Alors, voyons, ce que j'ai fait très récemment, mon tout dernier livre, qui est un livre de la série Eulalie Petit Marron, le thème est beaucoup sur la fréquentation des devins et astrologues. Il n'y a rien de bien nouveau là-dedans, et il me semble qu'au XVIIe siècle, c'est encore plus quelque chose de tout à fait naturel. Et justement, il se trouve que mes prédictions, c'est très commode 300 ans après, mais une partie de mes prédictions sont justes.
Oui, d'où le plaisir d'auteur, je vois mieux. Alors j'avais une autre question, là encore tout à fait classique quand on parle de romans historiques, qui concerne vos héros ou vos héroïnes, puisqu'on a des héroïnes intéressantes. Est-ce que c'est en fonction d'elles ou d'eux que vous racontez l'histoire? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de raconter leur histoire? Ou est-ce qu'ils sont des témoins? Ou est-ce qu'ils sont des relais entre la période et et le lecteur, comment vous intégrez la petite et la grande histoire? Est-ce que ça entre en compte dans la manière dont vous écrivez?
Oui, alors c'est moi personnellement, ma vision des romans historiques, en tant que lecteur, je m'intéresse toujours avant tout à l'histoire qu'on me raconte, à l'intrigue, et en second lieu à l'époque et au décor, ce qui reste qu'un décor qu'on traverse. Et j'aime pas du tout les histoires où en fait le personnage principal n'est qu'un prétexte à nous faire une leçon d'histoire, une visite guidée, un petit train qui se baladerait auprès de tous les personnages célèbres. Et donc, oui, moi je cherche vraiment à raconter avant tout l'histoire de mon personnage, de mon Lucien Bell sur le dernier roman. Bien sûr, quand on est dans une période historique comme la Commune de Paris, qui est très lourde, où il y a vraiment énormément d'événements historiques qui se passent tout le temps, on a envie de jouer sur les deux tableaux, de raconter l'histoire d'un personnage qui a une histoire quelque part entre guillemets qui pourrait sembler moins intéressante que la grande histoire, et on veut moi, une révélation que j'ai eue il n'y a pas longtemps, c'était d'aller voir Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez sortir parce que je vais dire un gros spoiler là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce film-là, ce n'est pas forcément le plus grand film que je connaisse, mais il y a un truc là-dedans qui m'a fasciné, c'est qu'en plein milieu, donc, il tue Hitler. Donc, depuis le début, il y a un... ça raconte un complot contre Hitler, et comme spectateur ou lecteur de romans historiques habitués, on sait dès le début que ça va échouer, puisque on sait qu'Hitler n'est pas mort dans un théâtre parisien. Et bien sûr, Tarantino tue Hitler en plein milieu du film, et voilà, quand moi j'étais dans la salle, je me suis dit, on a le droit de faire ça. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, je me suis dit, mais bien sûr, d'abord j'étais en colère de ne pas y avoir pensé moi-même, et je pense que moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est que prendre suffisamment de liberté, je pense que quand on écrit un roman historique, on ne peut pas prendre de liberté avec vraiment ce qu'est le décor, la façon dont les personnes s'habillent, comment ils vivent, même la façon dont ils pensent. On doit être rigoureux historiquement. Par contre, les grandes figures historiques, je prends plaisir à les prendre à contre-pied et à les placer dans une histoire à la Tarantino où ils vont faire des choses qu'ils n'ont pas du tout faites dans la réalité, parce que c'est ce qui m'amuse, et c'est la partie peut-être, c'est là que le roman devient fantastique souvent. Et donc effectivement, ça permet de jouer sur les deux tableaux. Le plus important, ce sont les personnages, qui peuvent être des personnages très célèbres par moment, comme par exemple Eugène Potier, qui est peut-être pas si célèbre que ça, mais c'est l'auteur d'International, qui joue un rôle important dans mon bouquin, et que je m'amuse à mettre dans mes situations.
Effectivement, dans mon roman, on en croit dans des Rasputin, des Nostradamus, des grandes figures.
Voilà, et vous, Nostradamus, par exemple, a un rôle qui est complètement non historique dans mon roman. Mais voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et c'est par exemple pour Nostradamus, ce qui m'a intéressé, c'est que cette personne qu'on venait voir de l'Europe entière, on lui demandait uniquement d'annoncer des catastrophes, d'annoncer des choses terribles. Et en fait, quelque part, les monarques qui demandaient ça à Nostradamus, ils lui demandaient de prendre sur ses épaules les malheurs qu'ils ne voulaient pas prendre eux sur leurs épaules. Et quelque part, Nostradamus avait un côté Cassandre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est, me mettant dans la peau de Nostradamus, comment on peut vivre avec ça, quoi. Comment on peut supporter de prendre sur ses épaules les malheurs des autres. Et voilà, alors est-ce que Nostradamus était malheureux? Je pense pas, et ça m'intéresse pas. C'est le côté Hitler de Tarantino, où peu importe ce que pensait vraiment Nostradamus, moi ce qui m'intéressait c'est ce côté-là.
Le destin déjà écrit, c'est une problématique importante pour vos personnages.
J'ai toujours mis un point d'honneur à ce que les événements soient ce qu'ils étaient, et aller chercher la petite bête, parce que justement. Moi, j'ai vérifié certaines choses en parlant de Nostradamus d'ailleurs, parce que justement il était à un endroit très précis à un moment donné et j'avais besoin de lui ailleurs, et je ne l'ai pas fait intervenir puisqu'il était historiquement à cet endroit très précis. Donc moi je suis très très
pointilleuse,
voilà, très pointilleuse là-dessus, parce que je sais aussi que j'ai beaucoup d'universitaires qui travaillent à partir de mes livres, donc je mets un point d'honneur à ce que ça reste aussi, s'ils le désirent, un outil de travail, même si derrière, je suis plutôt moi un auteur d'atmosphère, et c'est souvent ce qu'on me dit, que j'ai beaucoup plus finalement de lecteurs de polar et de thriller que de lecteurs de romans historiques, parce que ben, y a plus d'atmosphère que de description, et ça c'est vrai que ça me parle davantage. Après c'est vrai qu'il y a tous les personnages qui arrivent comme ça, qu'on décide pas nécessairement et qui s'invitent à la fête, et brusquement ils apparaissent sous un trait de plume, vous demandez ce qu'ils fichent là, et puis 4 pages après, ils ont leur utilité, ils ont leur nécessité. Je ne fais jamais de plan. Voilà, situé. Moi, je ne travaille jamais avec un plan, même quand j'ai 5 tomes. Je ne sais jamais où je vais. Je ne sais jamais ce qu'elle sera la page suivante. Donc, la seule structure que j'ai, c'est la structure historique. Donc, si j'enlève celle-ci dans les faits, dans les dates, dans les champs extrêmement structurés, il n'y a plus rien qui tient la route. Sinon, voilà, l'imaginaire est débridé. Et où j'écris des choses complètement... imaginaire et fantastique, et dans ce cas-là, je me lâche complètement. Ce qui est le cas un petit peu d'ailleurs dans le champ des sorcières, puisque les personnages sont réels, mais il y a une grande partie des personnages qui ne sont pas du tout réels, et là, je me suis vraiment amusée. Ou alors, si vraiment je travaille dans une structure très historique, c'est elle qui me sert de guide. Le reste, voilà, les personnages, ils arrivent, ils partent, ils reviennent, comme si j'avais un film qui se déroulait devant moi, et comme souvent je rêve les histoires la nuit et que le lendemain, j'ai plus qu'à les écrire, tout en ayant cette espèce d'intuition un peu particulière qui fait que souvent les personnages que je crée, je les retrouve dans l'histoire après, mais dans l'histoire avec un grand H, par les recherches que je fais ou qu'on m'amène. Donc c'est ça qui est assez curieux. Donc j'ai une espèce
c'est intéressant aussi parce que dans vos romans, il y a une grande tension entre le destin écrit, c'est-à-dire l'histoire, et la soif de liberté. Qui anime les personnages et qui va justement les entraîner sur des chemins inattendus. Bon, même si voilà, il faut toujours que ça finisse par retrouver l'histoire.
Oui, mais quand j'arrive à la fin, vous savez, j'ai écrit cette grande saga du champ de sorcières de la Reine des Lumières en me disant qu'il y aura un tome. Il y en a eu 5. Et honnêtement parlant, quand je suis arrivée à la fin du 5e et que j'ai vu tout se recouper, mais alors j'ai dit waouh! Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment eu le sentiment de ne rien maîtriser à ce moment-là. Ça jaillissait, ça coulait, c'était évident. Mais bon, peut-être que c'est le propre des raconteurs d'histoire, hein. C'est-à-dire d'avoir une histoire qui, elle, est déjà faite, même si on n'en a pas conscience, et juste d'être le stylo est un canaliseur pour l'exprimer. Le plan, certainement, doit se faire quelque part, il n'y a pas de secret.
moi qui interview beaucoup d'auteurs, il y a tout. Hein. Il y a au contraire des grands planificateurs,
voilà,
donc des grands organisateurs,
j'ai vraiment,
ça existe
par moment, l'impression
aussi.
Je crois que ça me dépasse un peu tout ça. Mais et c'est en ça, certainement, que la magie existe. Donc ça me passe.
C'est formidable, ouais. Vous avez de la chance qu'elle vous ait touché. Anne-Sophie, vous avez
Excusez-moi, je dirais peut-être tout simplement l'intuition.
Aussi.
Vous avez certains romans où vous avez de jeunes héroïnes donc comme Lali qui sont complètement imaginées, d'autres où au contraire les personnages historiques connus sont au premier plan.
Je me suis tout à fait retrouvée dans ce qu'a dit Mireille tout à l'heure, quand elle a dit « je ne fais aucun plan, je ne fais non plus jamais de plan », mais le décor, en fait, l'entourage historique me sert de structure. Voilà. C'est exactement ça. Alors, pour revenir au tout début, à votre première question, c'est le personnage qui a la priorité, c'est celui qui m'intéresse le plus. Alors, en général, j'essaye que mon personnage soit complètement imaginaire, justement, comme Eulalie, qui me donne une liberté totale dans son cadre de 1766, que j'essaye au contraire de décrire parfaitement fidèlement en vérifiant tout, même le temps qu'il faut pour aller de Paris à Orléans en carrosse, le nombre de relais, combien de chevaux. Enfin, même si tout ça apparaît à peine, si le voyage va peut-être être décrit en deux lignes, mais j'essaye que tout cela soit exact. J'ai certains personnages qui ont existé mais que je traite comme des personnages de fiction. Alors c'est particulièrement le chevalier Déon, mais je l'ai pris à une période de sa vie, 18 ans, où on ne sait rien de lui, parce qu'il n'a rien écrit à ce moment-là, rien laissé, il n'y a aucune trace. Donc, en le connaissant un tout petit peu dans ce qu'il est devenu ensuite, qui a été bien décrit par ses biographes et par lui-même, parce qu'il a énormément écrit, mais il écrivait aussi un peu n'importe quoi, c'était un grand mystificateur. Donc je me sens très libre dans sa période de 18 ans, de décrire à peu près ce que je veux, de lui faire penser ce que je veux. Marie-Antoinette est peut-être la seule exception où j'ai pris un vrai personnage et à peu près presque tout ce que je lui fais dire et son entourage sort d'une documentation très précise qui est la correspondance de l'époque et particulièrement sa correspondance à elle, la correspondance de sa mère Marie-Thérèse et de l'ambassadeur Merci Argenteau. Ils se sont énormément écrits. Merci Argenteau qui était l'ambassadeur d'Autriche en France chargé de veiller et surveiller Marie-Antoinette et d'écrire chaque jour à sa mère tout ce qu'elle faisait. Alors vraiment là j'ai pris, en essayant aussi de tenir compte que Merci Argenteau ne pouvait pas tout dire à Marie-Antoinette, il faut aussi essayer de regarder avec ses yeux à lui, il ne fallait pas qu'il la déçoive, il ne fallait pas... Bon, néanmoins ça pourrait être un travail quasiment historique. Mais il me semble qu'à partir de chaque instant où je me permets d'interpréter une ligne de leur correspondance, je plonge dans la fiction, la subjectivité, et j'en fais mes personnages. Donc je n'ai absolument aucune prétention à faire un travail historique, c'est un roman. Même s'il repose sur... Il y a des phrases entières que je présente comme du dialogue, mais qui sont retirées, bon, un petit peu simplifiées pour que le langage soit un peu plus facile, mais de leur correspondance.
Hein. Vous appropriez les personnages historiques
Oui, mais je me les approprie, mais... Je ne prétends pas que je décris le personnage tel qu'il a été. J'ai absolument aucune prétention là-dessus. Ça...
Personne le peut.
Voilà. Si, beaucoup de biographes le font un petit peu. Et justement, parfois, pour certains biographes, je me dis là, ça, c'est une remarque qui me paraît très subjective.
Oui, alors ça, voilà. pour ça, en fait, Gilbert Sinoué était la dernière personne qui venait apporter, parce que lui a écrit à la fois des biographies, donc vraiment des textes qui sont présentés dans les cadres documentaires, et des romans historiques, au contraire des fresques sur l'histoire du Moyen-Orient. Donc, bon, voilà, c'était... voilà. Juste pour vous dire que le panel était bien pensé.
il me semble en fait que le seul travail sur lequel on peut s'appuyer, c'est celui de l'historien, qui se contentent des faits, aucune interprétation. Voilà, ils disent ce qui s'est passé, et c'est à nous d'essayer de comprendre.
Oui, sauf qu'on a, Jean-Philippe nous a rappelé que ça n'existe pas un historien qui ne réinterprète.
Si, rien, les vrais historiens, ceux des facultés d'histoire. Justement, j'ai participé à une table ronde contre des historiens qui s'appelaient des 17e-istes, qui m'ont fait des quantités de reproches, mais on ne pensait pas exactement comme ça à cette époque-là. J'ai dit oui, mais je ne suis pas historien, c'est un roman. Voilà.
Bien sûr, et par exemple, sur le sujet de la Commune de Paris dont je parlais tout à l'heure, il y a des livres d'histoire très précis sur comment ça s'est passé. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas que.
Les historiens eux-mêmes s'interrogent sur leur façon d'écrire l'histoire. Le fait même de passer par l'écrit. Ça induit une mise en récit.
Parce qu'au-delà des livres d'histoire, il y a aussi l'imaginaire collectif, quoi. Le fait que certaines périodes, comme la Commune de Paris, sont vraiment chargées énormément toute une iconographie ou des réflexes, quoi. Et en particulier, une charge politique pour la Commune de Paris qu'on trouve d'ailleurs présente dans quelques livres d'histoire.
J'allais dire que toute notre histoire est chargée d'un énorme fatras de clichés qui, en ce qui me concerne, que j'essaye souvent, de sortir, de m'extirper, de ne pas rentrer dedans. Et parfois on est très surpris, mon Dieu, je suis encore tombée dans ce cliché-là à la relecture.
Mais par ailleurs, on parlait du utilisation bac à sable de l'histoire qui vraiment je revendique complètement. Mais moi je pense aussi pour le romancier, pas les historiens, mais les romanciers, quelquefois des gens demandent vos idées. Justement, l'intérêt aussi de l'histoire, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir une imagination énorme. Il suffit de se plonger dans un livre d'histoire, dans le bac à sable, et de découvrir tous les jouets cachés sous le sable, et il y en a beaucoup. Par exemple, je pense, et le fantastique est jamais très loin, parce que je pense par exemple moi j'ai découvert en m'intéressant à la Commune de Paris au personnage de Jules Alix. Donc c'était une espèce d'illuminé qui avait fondé le bataillon des Amazones de la Seine, donc un bataillon de femmes qui devait combattre pour la Révolution. Et il avait inventé la commotion escargotique.
Oui, j'ai une collègue qui est spécialiste.
C'est terrible, ça.
Les escargots sympathiques.
Exactement. Donc, il avait découvert qu'après l'acte sexuel, les escargots restent liés par un lien télépathique qui fait que si vous avez un escargot à Paris et un autre à Bordeaux, vous les mettez sur des petites lettres pour faire un message, et l'autre escargot va faire le même message, et ça permet de communiquer. Il disait très rapidement, enfin ça reste des escargots, donc il fallait attendre. Et ces personnages-là, en fait voilà, il suffit de creuser un peu, puis tout de suite le fantastique arrive et on se dit, si on pouvait communiquer vraiment avec des escargots, ce serait vraiment amusant.
On va laisser un tout petit temps de discussion avec la salle. Donc si vous avez des questions, je vous invite à ne surtout pas hésiter à les poser à nos auteurs. Vous n'aurez pas de micro, hein, mais vous levez la main et vous prenez la parole. Bon, bah vous allez le regretter, mais tant pis. Hein. Je vous remercie de votre présence. Un très grand merci aux trois auteurs et à très bientôt.
Merci beaucoup à vous tous.